Hélène Roussel pour le journal. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Avec les professionnels dans les stations du ski qui s'organisent alors que tombe la neige drue et que les remontées mécaniques, elles, sont interdites pour les fêtes à cause du Covid. On en reparlera d'ailleurs à 8h20 avec notre invité Patrick Mignola, le député MoDem de Savoie. Dans le reste de l'actualité, Hélène.
Emmanuel Macron parle aux jeunes. Plus de 2 heures d'interview sur le média en ligne brut. Hier, pas de dérive autoritaire, dit le président, mais des contrôles aux faciès trop nombreux. Il annonce une plateforme de signalement et s'énerve quand on lui dit qu'il ne fait pas assez pour l'écologie, vous l'entendrez. Contre la loi sécurité globale, des dizaines de manifestations prévues aujourd'hui encore un peu partout en France et puis aussi du sport avec les clubs de foot français au bord de la faillite, on vous dit pourquoi.
France Inter.
Plus la neige tombe, plus la frustration monte. Pas de ski alpin ce Noël en station, les remontées mécaniques restent fermées. 6 régions ont déposé un recours devant le Conseil d'État. Mais en attendant la réponse, sans doute en début de semaine prochaine, les professionnels du secteur cherchent la parade. Comme ici dans les Vosges, avec l'ouverture hier de 25 km de pistes nordiques, comprenez, de ski de fond. Reportage France Bleu Alsace, Patrick Janton.
Les bénévoles du ski club de Ranspach avaient sorti la dameuse hier pour mettre la dernière main aux pistes qui seront ouvertes ce week-end. Il est tombé 40 cm de neige, de quoi réjouir André Grob, le président du club qui gère ces itinéraires nordiques.
Pour ce week-end, on aura 25 km de pistes damées et balisées. C'est relativement facile déjà du Marchin jusqu'à la ferme du Hague, c'est relativement plat. Et ça, il y a beaucoup de gens, même d'un certain âge, qui aiment bien cette route des crêtes. C'est notre gagne-pain en fait, et puis ils savent que le ski club de Ranspach se donne de la peine bien d'amener les pistes. Mais peut-être c'est aussi peut-être une bouffée d'oxygène pour le ski de fond, on ne sait pas, parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui vont peut-être venir faire du ski de fond.
Juste à côté, les responsables de la station alpine du Markstein sont forcément amers de voir une belle couche de neige et de ne pouvoir ouvrir. Thomas Cron, le directeur de la station.
Avoir de la neige et ne pas pouvoir l'exploiter, ne pas pouvoir s'adonner à notre passion qui est aussi devenue notre métier, c'est un crève-cœur pour nous. Hein. Économiquement, c'est dur et moralement, je peux vous dire que pour tous les passionnés de montagne, c'est très très compliqué.
Pour le ski nordique et les randonnées, on rappelle que la pratique est ouverte aux personnes habitant dans un rayon de moins de 20 km et pour une sortie d'une durée maximale de 3 heures.
Oui, pour l'instant, car vous le savez, à partir du 15 décembre, terminer les attestations, première phase du déconfinement en attendant le 20 janvier et l'ouverture peut-être des bars, des restaurants, des cinémas. Les facs, quant à elles, vont peut-être pouvoir rouvrir plus tôt que prévu. Emmanuel Macron hier a évoqué début janvier pour les travaux dirigés et les demi-groupes en amphi, les étudiants qui travaillent à distance depuis le début du confinement. La conférence des présidents d'université se réjouit et se dit prête à accueillir les jeunes sur les campus dès le 4 janvier.
Exercice inédit hier pour Emmanuel Macron, interviewé sur le média en ligne brut.
2h15, c'est ce qu'on appelle une interview fleuve. Le chef de l'État a tout son temps, dit-il, pour répondre aux jeunes et ça fuse du tac au tac, avec un coup de sang du président sur l'écologie, un point sensible visiblement pour l'Élysée, Élodie Forêt.
Accusé de ne pas tenir compte des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, Emmanuel Macron s'emporte.
J'ai 150 citoyens, je les respecte. Mais je vais pas dire parce que ces 150 citoyens ont écrit un truc, c'est la Bible.
Un truc, voilà donc comment il qualifie désormais le travail réalisé par les citoyens. Certes, une expérience démocratique inédite qu'il a lui-même voulu, mais rien qui ne remplace le travail des parlementaires, assène Emmanuel Macron, parlementaire qui travaille d'arrache-pied pour rendre des propositions réalistes, exemple avec les passoires thermiques.
Est-ce que, en conscience, on va aller au bout du bout, qui est un moment de dire, on met une pénalité très forte ou l'interdiction de vendre, où on met le curseur. Donc il faut qu'en même temps on pense l'accompagnement à la chose. Ils n'ont pas, et ce qui est normal, tout prévu, tout pensé.
D'un côté les pragmatiques, donc travaillant à une écologie du quotidien. De l'autre, des utopistes, le militant écolo Cyril Dion en tête.
Que un citoyen qui m'a aidé à avoir cette idée ne fasse pas de caricature en disant c'est à prendre ou à laisser, vous devez l'appliquer tel quel. Ça c'est la solution des fainéants. Personne n'a autant fait que nous depuis 3 ans. On a arrêté des projets que tout le monde laissait traîner et ne voulait pas arrêter. Notre-Dame-des-Landes, la montagne d'or, qui l'a arrêté? Donc moi, j'ai pas de leçon à recevoir.
S'agacer, le meilleur moyen de noyer le poisson, ironise Greenpeace dans un communiqué, dénonçant une future loi climat très insuffisante.
Élodie Forêt, Emmanuel Macron a aussi parlé longuement des violences policières. Une expression qu'il n'aime pas, c'est devenu, dit-il, un slogan politique. Il préfère évoquer la violence de policiers et renvoie dos à dos celles dont sont victimes les forces de l'ordre. Non, dit-il encore, il n'y a pas de dérive autoritaire en France, c'est un grand mensonge. Le chef de l'État qui reconnaît en revanche les contrôles aux faciès et annonce la création en janvier d'une plateforme pour signaler les discriminations. Tout ce qu'il faut retenir de cette interview, avec notamment de nouvelles aides pour les jeunes, est à retrouver sur franceinter.fr. En attendant, les opposants à la loi sécurité globale se retrouvent une nouvelle fois dans la rue aujourd'hui. Pas moins de 80 marches des libertés prévues un peu partout en France. L'article 24 réécrit, certes, mais les opposants dénoncent. Cet article qui encadre la diffusion d'images des policiers risque de se retrouver dans la loi sur le séparatisme présentée, elle, mercredi en Conseil des ministres. Et à propos de la lutte contre le communautarisme, le PS s'empare à son tour de la question. Meeting en visioconférence hier, compte rendu avec Laurence Perron.
À force de lutter contre les procès en angélisme, le PS avait fini par passer à gauche pour totalement Valls ou Macron compatible. Olivier Faure, le patron du PS, a tenu à clarifier les choses.
Ne pas nous laisser entraîner progressivement par un discours qui est un discours de droite, d'extrême droite, plus ou moins euphémisé, qui revient à rejeter ce que nous sommes devenus. La France n'est plus un pays blanc et catholique. C'est un pays métissé.
La laïcité est un combat, mais pas n'importe lequel.
Le problème de la laïcité, c'est qu'on lui fait dire parfois trop de choses. Elle n'est pas un remède miracle à tous les problèmes. La laïcité n'a jamais parlé du burkini à la piscine.
Et voilà pour Yannick Jadot, l'aspirant candidat à la présidentielle des écologistes, qui avait utilisé l'argument pour gagner un peu de respectabilité à droite. Le PS, toutefois, n'entend pas refermer le débat.
Si vous avez des propositions qui sont meilleures que les nôtres, si vous êtes meilleur que nous, ben prouvez-le.
Un exercice périlleux en ces temps de grandes tensions idéologiques. Et si finalement le PS d'Olivier Faure était parvenu à honorer sa promesse de devenir un trait d'union entre les gauches.
La laïcité, l'immigration, le président LR de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, réclame lui un référendum dans le Figaro ce matin. 38 ans après l'attentat de la rue des Rosiers qui avait fait 6 morts dans le Marais en plein quartier juif à Paris, l'un des auteurs présumés, Walid Abdulrahman Abou Zayed, a été extradé en France par la Norvège hier. Arrivé à Roissy dans la soirée, placé en rétention, il doit être présenté au juge antiterroriste dans la journée. Son extradition ouvre bien sûr la voie à un procès tant attendu par les victimes.
Le football français au bord de la faillite.
Le groupe espagnol Mediapro, principal détenteur des droits télé de la Ligue 1 et de la Ligue 2, ne paye plus ses traites. Il y en a pour des dizaines de millions d'euros. Mediapro estime qu'avec la crise du Covid, les droits auraient dû baisser. Un bras de fer en cours devant le tribunal de commerce. Reste Emma Sarango que c'est le risque de la panne sèche pour les clubs et il n'y a pas beaucoup d'alternatives solides.
Première hypothèse, la Ligue se tourne vers les banques, sauf qu'elle avait déjà contracté un PGE, un prêt garanti par l'État de 225 millions d'euros en mai après l'arrêt du championnat, puis un deuxième emprunt en octobre, justement parce que Mediapro n'avait pas réglé son échéance. Un troisième en 9 mois, ce serait très compliqué, analyse Christophe Lepetit du Centre de droit et d'économie du sport de Limoges.
Sur quel fondement, finalement, elle garantirait cet emprunt-là? Parce que je pense que les garanties qui ont été apportées sont des garanties qui sont attachées au versement des droits télé futurs. Or, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une incertitude quant au versement de ces droits télé.
La Ligue privée d'emprunt, ce serait donc aux clubs eux-mêmes de faire appel aux banques en s'appuyant, par exemple, sur leurs créances issues de précédents mercato, comme l'explique encore Christophe Lepetit.
Par exemple, l'AS Saint-Etienne vend un joueur à Arsenal en Angleterre. Très souvent, la somme du transfert n'est pas versée en une seule fois. Donc on a des clubs qui aujourd'hui ont peut-être la possibilité d'aller voir des organismes financiers en leur disant « je vais recevoir des liquidités dans 1 mois, 6 mois, 1 an, apportez-les-moi à très court terme et je pourrai continuer mon activité ».
Autre piste, rogner sur les dépenses et notamment ce qui représente souvent plus de la moitié des frais d'un club, les salaires. On se souvient des réticences de certains joueurs au printemps dernier. Mais cette fois, la catastrophe guette. Si l'on en est à hypothéquer les petites cuillères, il faudra bien toucher les salaires, résume un dirigeant de club.
En attendant, ça continue de jouer sur les terrains. 5e victoire d'affilée pour Marseille hier. 2-0 face à Nîmes et Marseille. Un petit point du PSG au classement de Ligue 1. Enfin, les Françaises s'imposent. 24-23 face au Monténégro. Premier match de l'Euro féminin de handball hier. Les Bleus affrontent la Slovénie demain. On y reviendra dans le journal à 7h30.
C'était le journal d'Hélène Roussel.